Vous écoutez RTL, première radio de France. RTL.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, bienvenue sur RTL si vous nous rejoignez. Bonsoir Sidonie, ça va bien ?
Bonsoir Thomas, salut les curieux, je vais très bien. La curiosité, c'est quoi ? Bah, c'est de l'histoire, de la science amusante, des sagas musicales et de l'aventure.
Tiens, justement, tout à l'heure, c'est un voyage autour du monde que l'on vous propose. Notre invité a sillonné la planète à cheval et certaines des étapes furent particulièrement marquantes, par exemple. Écoutez bien, quand il a obtenu l'autorisation de se rendre en Corée du Nord, il y découvre comment cette dictature familiale utilise les légendes équestres pour asseoir son pouvoir.
Et puis, en 45 ans, il a peint près de 1000 tableaux et inventé l'art moderne. Rien que ça. Et pourtant, il est passé par le manque de reconnaissance, les moqueries. Il avait une sorte d'allure de clochard hirsute. On va vous raconter l'histoire du génie, du génial Paul Cézanne dans la curiosité.
Et puis dans cette émission, on fait parfois des rencontres extraordinaires. C'était le cas jeudi avec un alchimiste, Sidonie. C'était
bluffant.
Particulier. On en est sorti un peu transformé. Il nous a raconté sa quête de la pierre philosophale, évidemment, mais aussi comment les alchimistes chinois avaient inventé une nouvelle couleur.
Quand le premier empereur Qin Shi Huangdi décide d'avoir une couleur que les autres n'ont pas, il demande à ses alchimistes de lui faire du violet, parce que ce violet n'existe pas dans la nature. Et ils prennent un métal, ils le vitrifient, et en le broyant, ça fait une couleur incroyable qui deviendra le bleu et le violet Han. Et cette couleur est arrivée jusqu'à nous et on la trouve dans les vitraux. Ce qui veut dire que c'est des alchimistes chinois qui ont transmis à des alchimistes occidentaux, malgré les interdits et leur culture, des modes de fabrication incroyables.
Et d'autres pépites à venir dans la curiosité. D'abord cette question. Le sucre est-il une drogue ?
Curiosité est un vilain défaut.
Je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière.
Ah non, 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 je m'excuse, monsieur. Nous ne faisons pas cela ici, vous êtes trompé d'établissement.
Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Scène mythique des bronzés fonds du ski et puis les Roubettes et les Archives qui chantent le sucre. Le sucre, c'est une gourmandise, un plaisir, mais il a envahi l'immense majorité des rayons de nos supermarchés. Il est partout, même là où vous ne l'imaginez pas. On vous raconte l'histoire du sucre avec notre invité Bernard Pellegrin. Bonsoir.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu.
Bienvenue.
Merci.
Dans la curiosité. Vous êtes journaliste, ancien directeur adjoint de l'information de l'AFP. Vous avez enquêté donc sur le sucre qui est partout dans nos supermarchés. Quand je dis ça, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on peut donner un pourcentage, par exemple ?
Ah, on peut tout à fait. Alors, bon, resterait à le démontrer avec précision, mais on s'accorde en général pour dire que si vous retirez tous les produits qui contiennent du sucre dans un supermarché, alors, soit bien sûr les produits normalement sucrés, les confitures par exemple, mais aussi tous les produits où on a ajouté du sucre sans vous le dire, les pizzas, les soupes, minutes.
Les sauces aussi.
Les sauces, plein de choses. Eh bien, on retire 80% des produits. Il n'en reste que 20% sur les linéaires.
On serait dans les rayons d'un supermarché soviétique des années 70, c'est ça,
désert, oui.
Et pourtant, la publicité planque quand même ce sucre. Il n'est pas forcément affiché. Comment tous ces produits sont mis en scène ?
Ils sont mis en scène par la publicité, essentiellement. Ils sont mis en scène par l'image qu'a le sucre. Ils sont mis en scène par quelque chose que les Américains ont plutôt, qui sont aux premières loges de cette vague de sucre, ils ont plutôt bien décrit en disant « on est dans une société de la culture sucrée ». Ça veut dire que, en fait, dans les sociétés d'aujourd'hui, il y a le sucre qu'on mange et puis il y a le sucre qu'on fantasme. C'est-à-dire que le sucre, c'est quelque chose qui est bon, qui fait plaisir, qui donne du bonheur.
Donc, qui réconforte.
Qui réconforte. Donc on préférera le vinaigre balsamique parce qu'il est sucré. On préférera mettre, par exemple, on m'a raconté, mais toutes les femmes savent ça, qu'il y a un parfum très célèbre de Thierry Mugler qui est très très sucré et qui a eu beaucoup de succès pour ça. Et les parfums aujourd'hui sont très sucrés. Il y en a un petit peu dans le tabac roulé, il y en a un petit peu dans le dentifrice. Il y en a un petit peu partout. Mmh. On aime le sucre.
Alors, pour cette enquête que vous publiez, Sucre, enquête sur l'autre poudre aux éditions Talendier, Bernard Pellegrin, forcément j'imagine que vous êtes allé au contact de cette industrie agroalimentaire, industrie sucrière. Est-ce que c'est compliqué de leur parler, d'avoir
des
informations ?
C'est très très compliqué de leur parler parce que, enfin, il y a deux grands sucres crié en France. Il y a une entreprise assez puissante qui s'appelle Tereos qui n'a pas donné suite à mes demandes. Et puis, il y a un négociant de denrées qui s'appelle Sucden, donc sucre, c'est pour sucre, qui, lui, a refusé de me parler. Donc, c'est un petit peu entouré de mystères s'agissant de ce qu'on appelle habituellement les betteraviers, c'est-à-dire les gens qui font du sucre. Mais, en fait, les gens qui ont le pouvoir là-dedans, c'est plutôt leur client, c'est plutôt les géants de l'agroalimentaire. Autrement dit, Coca-Cola est beaucoup plus puissant que Tereos ou que Sucden réunis.
Bernard Palgrin, il y a quand même une question à laquelle on doit répondre. Il y a du sucre partout dans notre alimentation au supermarché, mais est-ce que c'est une drogue ? Quel est le problème ?
C'est ce que laisse entendre votre titre.
Ouais. Tout à fait, oui, oui. Alors, il y a d'abord une chose qu'il faut affirmer avec force, parce qu'il ne faut pas non plus vendre des vessies pour des lanternes, c'est que le corps a besoin de glucides. Les glucides font partie des éléments de base qui permettent à l'organisme de fonctionner normalement, et s'agissant des glucides, notamment le cerveau. Donc le problème, c'est pas de manger du sucre, le problème, c'est d'en manger trop. Et donc le phénomène d'addiction, il se met en marche quand on commence à en manger un petit peu trop. Et en fait, la réalité de cette histoire, là maintenant au début du 21e siècle, c'est que l'addiction, c'est comme deux engrenages qui se compléteraient, qui rentraient l'un dans l'autre, celui d'un désir de sucre qui est lié à cette addiction, et puis celui d'un lobby qui satisfait cette addiction, et donc les deux marchent ensemble.
Cette addiction, elle a été démontrée il y a une petite dizaine d'années, c'est ça, par un chercheur bordelais. Vous pouvez nous raconter cette histoire ?
Voilà, Serge Hamet, qui est chercheur au CNRS, qui travaille à Bordeaux, qui d'ailleurs au départ est addictologue, il ne s'intéresse pas du tout au sucre, il s'intéresse aux drogues dures, à la cocaïne, à l'héroïne, aux amphétamines, etc. Et il mène une expérience sur des rats à qui il donne de la cocaïne depuis un moment, et pour être sûr que son expérience soit scientifiquement basée, fondée, il se dit qu'il faut leur proposer un deuxième produit. Bon, comme ça, on sera sûr que s'ils vont vers la cocaïne, c'est qu'ils ont goûté aux deux. Et qu'est-ce qu'on leur propose ? Bon, on leur propose de l'eau sucrée. Et surprise, les rats vont vers l'eau sucrée.
Ils lâchent la cocaïne pour l'eau sucrée.
Et l'expérience est reprise 5 fois, 10 fois, 20 fois par lui, par d'autres dans le monde, sur les 10 ans qui viennent de s'écouler, et c'est à chaque fois pareil.
Oui, mais sur les rats. Et sur les hommes, est-ce qu'on a... j'imagine pas fait la même expérience, mais est-ce qu'on a quand même testé ?
Les adversaires des théories de Serge Hamet disent, voilà, lui franchit allègrement la frontière entre le rat et l'homme, c'est pas possible, on fonctionne pas de la même manière. Sauf que les addictions, aujourd'hui, on a défini de façon assez précise à quoi elles répondaient. Elles ne répondent plus aux seuls critères de sevrage, par exemple, qui était le critère principal il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Elles répondent à beaucoup de critères, sociaux notamment, qui font qu'aujourd'hui, on est à peu près sûr aussi qu'il y a des gens qui sont addicts aux jeux vidéo, qui sont addicts à des choses qui jusqu'ici n'étaient pas considérées comme des addictions. C'est un peu ça aussi le sucre.
Et comment ça marche concrètement dans notre cerveau, cette addiction ? Qu'est-ce que ça provoque, le sucre,
Alors, le sucre,
comme réaction ?
Il provoque exactement la même réaction que, encore une fois, la cocaïne et, me dit Serge Hamet, et ça va être encore pire pour vos auditeurs, mieux l'héroïne. C'est-à-dire qu'en fait, il provoque une accumulation de dopamine. Et cette dopamine, c'est l'hormone du plaisir, et elle est lâchée de façon violente dans le cerveau. Donc, un petit peu comme la drogue dure, vous avez tout d'un coup un vrai plaisir et un vrai besoin qui est
d'y retourner.
On consomme 22 kilos de sucre par an et par personne en France. Est-ce que c'est beaucoup trop ou est-ce que ça nous place dans la hiérarchie des consommateurs de sucre dans le monde ? On va répondre à ces questions, entre autres, dans un instant sur RTL. Restez avec nous.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Le sucre est partout dans les produits que l'on achète au supermarché. Est-ce devenu une drogue dangereuse pour notre santé ? Notre invité, le journaliste Bernard Palgrin, répond à cette question dans un livre publié chez Thaïlandier. On disait tout à l'heure, nous, on consomme chacun, chaque Français, 22 kilos de sucre par personne en le disant comme ça, et par an, pardon. Ça me semble beaucoup. Est-ce que c'est énorme? Est-ce qu'on est bien placé en termes de consommation de sucre en Europe, par exemple?
Alors ça, d'abord, c'est les chiffres que donne...
Ou mal placé, ça dépend.
C'est les chiffres que donne le CEDUS, c'est-à-dire, on va dire, le lobby français du sucre.
Donc c'est peut-être plus.
Donc, voilà, il y a des gens qui disent on est plutôt vers 35. Alors c'est peut-être, c'est comme les manifs, c'est peut-être entre les deux.
Ça veut dire que 22 kilos de sucre mangé consciemment et 35 inconsciemment avec la part qu'on découvre dans les sauces et tout ce que
Alors
vous
non,
voulez,
pour répondre à votre question, on n'est pas du tout en tête des classements s'agissant de la consommation du sucre. Si on prend par exemple un célèbre soda avec des bulles et un peu brun, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Ah, c'est bien, oui.
On est très très loin de ce que boivent les Américains. Les Américains sont à 100 litres à peu près par an, les Mexicains à 105, on doit tourner autour de 40 ou quelque chose comme ça. Donc on n'est pas complètement... par exemple, si on prend aussi tout ce qui est les conséquences de l'abus de sucre, s'agissant du surpoids ou de l'obésité, on est dans le bas du tableau, ce qui n'est pas le cas du tout des États-Unis, évidemment.
Oui, alors on y reviendra aux conséquences du sucre tout à l'heure, un peu plus tard dans cette émission. On va raconter un peu l'histoire aussi du sucre, parce que ça explique pas mal de choses. De quand datent les premières traces de sucre transformé? Il faut remonter très très loin, j'imagine.
Alors on dit entre 8000 et 6000 ans avant notre ère, dans le Pacifique, et c'est l'Inde qui sert de route, un peu comme il y avait la route de la soie, de route du sucre. C'est une route qui ignore plutôt l'antiquité gréco-romaine, mais elle passe pas mal par les civilisations arabes. Et puis, peu à peu, elle arrive en Occident, au Moyen-Âge. Mais au Moyen-Âge, le sucre, c'est un médicament.
Et c'était du sucre quoi? De betterave? De canne?
Surtout pas de betterave. Non, c'est du sucre de canne.
Oui, d'accord.
Oui. Alexandre le Grand, qui part à la conquête de l'Asie, un de ses fidèles dit on a trouvé un roseau qui fait du miel sans l'aide des abeilles. Il parle de la canne à sucre.
C'est beau. Oui.
Et alors vous le disiez, au Moyen-Âge c'est un médicament, c'est-à-dire
c'est plutôt un médicament.
Ce sont les apothicaires qui le proposent vraiment.
C'est les apothicaires qui le proposent et qui le proposent. Alors au Moyen-Âge, la science et la médecine n'est pas exactement la même qu'aujourd'hui, certes. Et donc, on lutte contre la bile, le flegme, enfin des humeurs noires, amères, etc. Et comme c'est des humeurs amères, le sucre qui est sucré est censé les combattre.
Ouais. Contre le rhume aussi, j'ai lu ça dans votre livre. Oui, oui. Un bon grog, après tout, ça...
On a gardé la tradition.
Ça fonctionne,
oui,
hein, on n'en est pas loin.
Comment et quand le sucre arrive en France?
Alors, le sucre arrive en France d'abord un peu avec Marie de Médicis, les Médicis, etc., à la cour de France. Les Italiens ont déjà commencé à faire des tas de choses extraordinaires avec le sucre, notamment des sculptures. Donc, dans les grandes fêtes à Venise ou à Florence, il y a des motifs en sucre qui ornent les tables, etc. Et puis, peu à peu, avec le colonialisme, on va dire, les Antilles, etc., le sucre de canne commence à être produit et commence à arriver dans les grands ports français, Bordeaux, Nantes, etc.
Et en France, on trouve où les grandes raffineries de sucre? Les premières grandes raffineries?
Là, Bordeaux, Nantes, là où la canne arrive.
Ouais,
et après, elle remonte peu à peu par la Loire, par exemple, jusqu'à Paris.
Mais il est présenté sous quelle forme?
Sous pain de sucre,
à ce moment-là,
sous la forme d'un pain.
Hein,
qu'on casse avec un petit marteau, etc. D'ailleurs, c'est cher, hein, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, hein. C'est un produit cher.
Et puis les guerres napoléoniennes vont bouleverser cette histoire du sucre français. Pourquoi alors?
Parce qu'il y a le blocus contre les Anglais, mais du coup ça interdit tout échange maritime entre les Antilles et la France, et Napoléon demande à ses savants de lui trouver un sucre de substitution. On a déjà cherché dans les années qui ont précédé des fruits, des légumes qui pouvaient, etc. Et pour finir, on investit entre guillemets sur la betterave parce que c'est très facile à planter, c'est très facile à récolter.
Donc on va en planter massivement, c'est ça ?
Un maximum dans le nord de la France et dans toute l'Île-de-France.
Ouais.
Et là commence la véritable production. Et la France est très longtemps un des plus gros producteurs de sucre au monde.
Aujourd'hui encore, on est un producteur important en Europe.
Oui, en Europe premier. Dans le monde, 9-10 par là.
Ouais, c'est intéressant, pardon Sidonie, parce que On voit que c'est un enjeu politique aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure quand on reviendra sur les lobbies, mais ça l'est aussi à l'époque de Napoléon. Il faut donner du sucre au peuple.
Oui, oui, parce qu'on a commencé déjà un peu à manger du sucre et à prendre du sucre, etc. Il y a des habitudes qui se sont prises quand même. Il y a des choses qu'on sucre, le café, voilà. Donc, oui, le sucre est entré dans les cuisines, mais évidemment pas dans les supermarchés, puisqu'il n'y a pas de supermarché. Donc, je veux dire, c'est bête ce que je viens de dire, mais évidemment, il faut que tout ça progresse.
Et le sucre, alors, sous sa forme actuelle, c'est-à-dire en, en tout petit rectangle, qui en a eu l'idée ?
De conditionner le sucre.
Un cube rectangulaire, oui, de le conditionner le comme ça.
Ah ben, l'industrie sucrière, hein, c'est plus facile que le pain de sucre qu'il faut casser avec le marteau, etc. etc.
Ouais, le sucre qui est partout, vous l'avez évoqué.
Il y a pas mal de pays où ça n'existe pas, hein,
les
morceaux de sucre.
Aujourd'hui, il est comment, en poudre ?
En poudre, vous cherchez un paquet de morceaux de sucre en Grèce, c'est impossible, ça n'existe pas.
Ben voilà. J'essaie de me souvenir de vacances en Grèce. Effectivement, vous avez raison. Il n'y a pas trop de sucre en morceaux. Vous nous l'avez dit. Il y a des parfums en sucre. Donc on va aller chercher le sucre.
Ah, fouiller dans nos salles de bain. Ben j'ai l'impression. C'est ça. On ouvre les placards dans
quelques
un instant
surprises.
Sur RTL. Allez, chiche.
Soyez fiers d'être curieux.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
Une petite anecdote, trois fois rien. Tu sais qu'ils ont analysé le bicarbonate. Allô, t'entends ? Pourquoi tu tousses ? Ça n'est pas du bicarbonate, c'est du sucre en poudre.
RTL.
Juste un morceau de sucre qui aide la médula à couler. Ça vous rend la vie plus belle.
La curiosité est un vilain défaut.
Allô, t'entends ?
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Pourquoi tu tousses ? Le sucre est partout dans les sketchs de Fernand Reynaud, dans le film Mary Poppins, ou chanté par Maroon 5. C'est une enquête sur le sucre que notre invité a menée. Et vous l'avez pisté un peu partout, Bernard Pellegrin, le sucre est trouvé aussi dans notre vocabulaire. C'est-à-dire, c'est quoi ? Il enrobe nos phrases, si j'ose dire ?
Il y a beaucoup de choses qui ont trait au sucre. Et puis surtout, il y a ce qu'on pourrait appeler, de façon un peu pédante, une espèce de polysémie du sucre. C'est-à-dire que le sucre, ça veut dire ce que ça désigne, et puis ça veut dire aussi autre chose. Et par exemple, en anglais, sweet, ça veut dire à la fois sucré, mais ça veut dire aussi doux, ça veut dire même éventuellement chéri. Enfin voilà. Oui. Et on voit bien le passage de l'un à l'autre qui fait que le sucre est quelque chose qui est beaucoup lié aussi à l'amour, en fait. Le sucre, c'est de l'amour. Alors, ça peut être l'amour de la mère pour son enfant, qui il pleure la nuit, on lui donne un petit verre d'eau sucrée. Autrefois, on donnait du sucre aux enfants parce qu'ils avaient bien mangé leurs légumes, et puis s'ils n'avaient pas mangé les légumes, on les privait de dessert. Donc, le sucre a quelque chose aussi d'un peu lié à l'enfance. Oui. Et j'ai interrogé dans mon petit livre une psychanalyste qui est spécialisée dans les problèmes, les gens qui ont des problèmes d'obésité. Et elle raconte ça beaucoup. Elle raconte que les gens reviennent beaucoup à l'enfance et à leur enfance sucrée. Et elle dit de façon un peu caricaturale des psychanalystes, mais souvent, la vérité est dans le cliché. Elle dit, après tout, on dit un bonbon, on ne dit pas un mauvais.
C'est joli.
Ah, joli, effectivement.
Bernard Pellegrin, vous avez pisté le sucre et vous l'avez trouvé jusque dans nos salles de bain. Alors, avec vous, on va ouvrir les portes de nos placards. Et là, on a un petit peu peur. On trouve du sucre où ? Dans nos placards, dans nos crèmes ?
Alors, on trouve pas vraiment du sucre. Alors, si, il y a. Non, pas dans la. Mais dans le dentifrice, par exemple, oui, il y a des dentifrices qui ont du sucre. Qui n'est pas forcément d'ailleurs du glucose, qui peut être.
Dentifrice pour enfants d'ailleurs, souvent.
Oui, absolument, qui peut être aussi de l'édulcorant. Mais la question, c'est que ce que je disais un petit peu au début de notre conversation, c'est qu'il y a ce fantasme du sucre qui est partout. Et alors, dans les placards de la salle de bain, le fantasme du sucre, il est dans les gels douches qui doivent sentir la vanille, la cannelle, les fruits rouges, toutes choses qui appartiennent à l'univers du sucre.
Oui, dans les sticks pour les femmes aussi, les lèvres, pour les lèvres, on a souvent des baumes sucrés, donc ça aussi c'est proche de la bouche.
Les parfums, vous le disiez tout à l'heure, et vous disiez le tabac, on est passé dessus très vite, mais il y a du sucre dans le tabac.
Là c'est un peu réglementé, mais il reste, par exemple, le tabac à rouler, il y a des additifs liés à la vanille, liés au sucre, qui sont encore que choisir, la montrer dans une enquête, qui sont encore dans des quantités très excessives. Et là, le vrai danger, c'est qu'en masquant le goût du tabac, qui n'est pas forcément agréable, en tout cas la première fois où on fume, pour un jeune de 14-15 ans, si ce goût âcre du tabac est masqué par l'odeur, enfin par le goût du sucre, évidemment, ça le pousse à fumer davantage.
Alors, ma question est un peu évidente, mais l'objectif de toutes ces industries, c'est de nous faire consommer, en fait, parce que le sucre, c'est le circuit de la récompense
oui,
dont on parlait tout à l'heure.
C'est ça.
Notre cerveau en recherche en permanence.
Notre cerveau cherche en permanence. Vous savez, vous prenez un petit carré de chocolat, vous le mangez, vous refermez le placard, vous faites deux pas, puis vous vous retournez, puis vous rouvrez, vous en prenez un deuxième. C'est exactement ça.
Vous avez mis une caméra chez moi ou quoi?
Avec un peu de chance, on a eu une mauvaise nouvelle. Alors bon, on se dit quand même, va se réconforter avec du chocolat. Et c'est comme ça que
et
ça
donc,
disparaît.
Et donc, Serge Hamel, par exemple, lit beaucoup aux différents mécanismes.
Donc ce chercheur, pardon,
ce chercheur bordelais,
du CNRS à Bordeaux, qui a mené cette enquête, pour ceux qui nous rejoignent, sur les souris.
Voilà, et il lit beaucoup à ces recherches qu'on a décrites tout à l'heure, aussi le mécanisme du réflexe conditionné, c'est-à-dire que une publicité pour quelque chose de très sucré, très appétissant dans un supermarché, évidemment, ça pousse à en acheter.
Bernard Pellegrin, vous publiez « Sucre, enquête sur l'autre poudre » aux éditions Thaïlandais. Vous y décrivez le pouvoir du lobby du sucre, et notamment aux États-Unis. Quand est-ce qu'il est né ?
Alors, il naît très très tôt, mais il se développe surtout dans les années 50. Et ce lobby du sucre, qui était très puissant, a financé, on le sait maintenant, des études pour, un, montrer que le sucre était inoffensif, deux, quand les consommateurs ont commencé à se rebeller un petit peu, dire que la faute du surpoids, c'était les matières grasses.
Et aussi, ce lobby finance des publicités surréalistes qui nous sembleraient surréalistes aujourd'hui si on les découvrait sur nos écrans.
Ah oui, dans les années 60, la publicité pour le sucre aux États-Unis, c'est « manger du sucre si vous voulez maigrir ».
Ah oui, effectivement, on n'oserait pas quand même faire
non,
ça.
On n'oserait plus.
Aujourd'hui, y a-t-il aussi un lobby du sucre en France ? Qui est derrière ce lobby ? On va répondre à ces questions dans un instant sur RTL. Et on écoute Zazie, juste après la pub, qui nous propose sucré-salé.
Vous écoutez RTL.
Sucré-salé, on vous raconte l'histoire du sucre et du lobby du sucre.
Le sucre est au menu de notre curiosité sur RTL. RTL, miam, vous allez me dire. Bah non, pas sûr. On va de surprise en surprise en découvrant les résultats de l'enquête de notre invité, le journaliste Bernard Pellegrin. On va évoquer maintenant ce qui est reconnu comme un fléau mondial, c'est l'obésité. Alors, première surprise, elle tue plus que la famine. Qui a fait ce constat ?
L'OMS.
Ouais.
Organisation mondiale de la santé.
Voilà. En fait, elle tue plus que la famine des adultes. On met de côté la malnutrition et la famine des enfants, mais aujourd'hui, oui, elle tue plus.
Que préconise l'OMS à cet égard ?
L'OMS est assez avant-gardiste, entre guillemets, responsable, parce que aujourd'hui, l'OMS dit pas plus de 25 grammes par jour, c'est-à-dire grosso modo 6 cuillerées à café, quoi. Et c'est très très peu, hein, si on fait l'addition de tout le sucre qu'on consomme. Alors nous, peut-être pas, quoique, mais qu'un Américain, par exemple, consomme sur une journée, c'est largement plus.
Mais attendez, 6 cuillères de sucre, c'est-à-dire c'est en dehors du sucre qu'on trouve dans les gâteaux, qu'on trouve dans les sauces tomates, qu'on retrouve...
Ah non, au total.
Au total, c'est rien.
Au total, non, c'est pas grand-chose. Ça revient un peu à ce que consommait un ouvrier parisien au début du siècle, c'est du 20e siècle, c'est-à-dire 2-3 morceaux par jour, pas plus.
Et que répondent les lobbies du sucre à cette recommandation de l'OMS ? Parce qu'il y a un combat, il y a un combat même scientifique. Pour démontrer, on l'a dit, évidemment vous nous l'avez dit, que le sucre, notre organisme en a besoin, c'est une
absolument,
évidence.
Oui.
C'est l'excès de sucre qu'il faut chasser. Que répondent les lobbies du sucre à cette recommandation de l'OMS ?
Les lobbies du sucre mettent en cause, contestent les effets, les mauvais effets médicaux du sucre sur la santé. Le CEDUS, par exemple, qui est le lobby du sucre français, mais qui n'a pas la puissance de ce qu'on appelle Big Sugar aux États-Unis, conteste beaucoup que le sucre soit responsable de l'obésité, du surpoids, du diabète et même du cancer dans certains cas. L'OMS dit très franchement dans ses dernières recommandations il y a un vrai problème mondial et ça ne va pas s'arranger et on sait que le sucre peut provoquer, associé aux matières grasses, associé à une mauvaise alimentation, le cancer de ceci, le cancer de cela, voilà. Donc, alors les lobbies sont plutôt dans la négation, sauf qu'aujourd'hui, un certain nombre de gens, notamment les grands de l'agroalimentaire, comme Coca, comme Kellogg's, etc., commencent à comprendre que les gens réagissent. Et donc, il faut qu'ils fassent quelque chose. Et qu'au bout d'un moment, il est mieux de mettre sur un paquet sans sucre, pour vendre, que de laisser découvrir dans les toutes petites lignes qu'il y a du sucre.
Il y a un lobby du sucre en France ?
Oui, le CEDUS.
Le CEDUS, oui. Que dit son responsable des affaires scientifiques ?
Alors lui, il dit ce que je viens de dire, il dit mais non, tout ça c'est faux, par exemple l'obésité ou bien le surpoids, c'est énormément de facteurs qui se cumulent, c'est... bien sûr il n'a pas complètement tort, sauf qu'il dédouane tout le temps le sucre de la part de responsabilité qu'il a et qui est immense dans le cocktail avec les matières grasses notamment.
Parce que le sucre, c'est pas que des morceaux de sucre, c'est aussi... le sucre on le trouve aussi dans les fruits.
Alors bien
Est-ce que ce sucre ne suffit pas à notre bien-être, à notre santé ?
Ah si, si, tout à fait. En fait, les nutritionnistes disent l'essentiel pour avoir des bons glucides, c'est de manger des glucides complexes, c'est-à-dire à plus de deux molécules. Le glucose, c'est deux molécules, ou une molécule, je ne sais plus. Il faut des glucides complexes. Dans quoi on les trouve ? Les lentilles, les fèves, les pois cassés, voilà. Dans ces choses-là, il y a des glucides, dans ces choses-là, dans ces légumes, il y a des glucides complexes qui sont... parfait pour apporter ce que l'organisme demande sans courir aucun danger d'excès de sucre d'aucune manière.
Bernard Pellegrin, dans votre livre « Sucre, enquête sur l'autre poudre » chez Talendier, je découvre que la CIA tient aussi un classement de l'obésité dans le monde. Alors on se dit, mais pourquoi la CIA ? Qu'est-ce que la CIA vient faire là-dedans ?
Alors, j'ai pas l'explication parce que j'ai pas eu le directeur de la CIA,
réponse officielle
de la CIA en direct. Non, non.
Cette enquête ?
Voilà, il avait piscine ce jour-là. Donc,
ça arrive.
Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater que sur l'ensemble des pays du monde, les États-Unis sont 19e s'agissant de l'obésité. La France doit être à la 110e place, quelque chose comme ça. Et il y a devant les États-Unis aucun pays important. Donc, il y a un vrai problème de santé publique aux États-Unis et la CIA. Évidemment, doit, j'imagine, intégrer dans ses calculs sur les intérêts des États-Unis le fait que s'il y a une crise sanitaire majeure liée au surpoids et l'obésité, et tout le monde sait qu'il y en a une, ça peut être périlleux, gênant pour les intérêts américains.
Alors, autre effet négatif du sucre, les caries dentaires. Qu'ont démontré les autorités britanniques en la matière ?
Les autorités britanniques ont démontré, parce qu'elles ont été payées, que le sucre ne provoquait pas de caries dentaires. Voilà, c'est une...
Et ils payent bien.
Ils payent très bien. Alors après, bien sûr, c'est pas toutes les autorités britanniques, et ça s'est passé une fois, etc. Mais très souvent, le lobby du sucre, dans les années 70-80, a mené des campagnes violentes, hein, qui expliquaient aussi qu'encore une fois, si un enfant était maigre, c'est parce qu'il mangeait pas assez de sucre. Enfin voilà, des choses qui étaient franchement des contre-vérités.
En fait, c'est le lobby du sucre contre le lobby du gras. C'est un peu ça, pour
c'est
expliquer
tout ça.
Toutes ces causes d'obésité,
pour être très, très schématique,
de diabète,
mais assez illustré. Le lobby du tabac, qui est extrêmement puissant aux États-Unis, à un moment donné n'a plus pu dire que c'était excellent pour la santé de fumer deux paquets de cigarettes par jour. Et donc tous les lobbyistes sont passés sur le sucre. Et comme ils étaient assez puissants, qu'ils avaient déjà les recettes du tabac, ils ont gagné le bras de fer avec les lobbyistes du gras. Exactement.
D'accord, les lobbyistes du gras n'avaient pas embauché les bons. Ceux qui avaient travaillé pour le tabac pendant des dizaines d'années. On n'est pas égaux devant le sucre, on va terminer là-dessus. Dernier élément trouvé dans votre livre, le dosage d'une canette de soda. Et pas le même en fonction des pays.
Et pas le même en fonction. En Thaïlande, ce sera plus sucré. Au Maghreb, ce sera plus sucré. Au Mexique, évidemment, ce sera plus sucré. Et parce que il y a des goûts qui sont installés. Et puis, comme le Mexique, par exemple, a été totalement Coca-Colaïsé, les Mexicains qui boivent quelque chose comme 110 litres de soda par individu, par an, veulent de plus en plus de sucre dans leur soda.
Ils veulent leur dose de drogue.
On n'est pas égaux non plus en termes de couche sociale, de catégorie sociale. Hein. Aujourd'hui, dans les pays développés, les gens forts, obèses, sont les gens qui ont peu de moyens et qui donc font leur ravitaillement au supermarché. Et les gens qui ont plus de moyens font attention à ce qu'ils mangent et donc sont plus minces.
Merci beaucoup, merci Bernard Pellegrin. Je rappelle le titre de votre livre « Sucre, enquête sur l'autre poudre » publié aux éditions Talendier.
Vous écoutez RTL.